VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 13 décembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Deuil de 3 jours au Niger pour rendre hommage aux 71 soldats tués à Inatest. Une marée humaine a envahi Alger pour protester contre l'élection d'Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État. Dans son discours à la Nation, le président congolais Félix Tshisekedi a souhaité rétablir un scrutin présidentiel à 2 tours. Après une large victoire aux législatives, Boris Johnson pourra mener le Royaume-Uni hors de l'Union européenne au 31 janvier. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Hommage national ce matin au Niger aux 71 soldats tués mardi par des terroristes à la frontière avec le Mali. Le président Oussoufou Mouamadou s'est incliné devant les corps en présence des parents et compagnons d'armes des militaires. 3 jours de deuil ont été décrétés. Abdulrazak Idrissa était à la cérémonie.
Étalé sur le tarmac de la base aérienne de Niamey devant parents, amis et compagnons émus sur chacun des 71 corps couverts par le drapeau national, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a déposé des médailles après les avoir élevés tous au grade supérieur à titre posthume. Peu avant, ému, le président Issoufou Mahamadou a salué la mémoire de ses héros, particulièrement celle de leur commandant.
Commandant Hassan Anoutabe, tu devrais aller à la retraite, si bien mérité au regard de tes états de service dignes de l'ordre. Mais tu as fait le choix d'accepter la proposition qui t'a été faite de continuer à servir ta patrie. Tes 70 soldats et toi, la nation entière, est fière de vous. Votre sacrifice, tes soldats et toi, ne sera pas vain. Gloire à vous.
Cet hommage national aux 71 soldats tués le 10 décembre dernier intervient au premier jour du deuil national de 72 heures décrété par le gouvernement suite à ces événements qui ont marqué toute une nation encore sous le choc. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, 14 membres de milices civiles et un policier ont été tués jeudi à Mamouri, dans l'état de Borno. Les djihadistes sont arrivés à bord d'une douzaine de pick-up équipés de mitrailleuses et ont pris d'assaut un poste de sécurité tenu par une milice d'autodéfense.
Parmi les recommandations du Grand Dialogue National, il y avait la mise en place d'un statut spécial pour les régions anglophones. Cette session du Parlement doit donner un coup d'accélérateur.
Une session extraordinaire à l'Assemblée nationale camerounaise s'est ouverte à la demande du président Paul Biya pour examiner un projet de loi sur la décentralisation. Le Parlement devrait se pencher sur l'adoption du statut spécial des régions anglophones. Blanche Sanou nous en dit plus.
Parmi les recommandations du Grand Dialogue National, il y avait la mise en place d'un statut spécial pour les régions anglophones. Cette session du Parlement doit donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation selon Kavaye Yedje Djibril, président de l'Assemblée nationale. Cette réunion durera au maximum 15 jours. Le Sénat se réunit également en session spéciale. Un projet de loi sur les collectivités locales décentralisées devrait voir le jour. Le statut spécial donnera aux populations anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest une plus grande autonomie financière, la possibilité d'élire leur gouverneur, autrefois nommé par le président, et le rétablissement d'une chambre des chefs traditionnelle. Mais selon plusieurs ONG, depuis le Grand Dialogue boycotté par les indépendantistes, la violence est intensifiée dans ces régions anglophones.
Dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement, le président congolais Félix Tshisekedi a souhaité rétablir un scrutin présidentiel à 2 tours. Voici un extrait de ce discours.
Ne devons-nous pas nous interroger sur les avantages du rétablissement du deuxième tour de l'élection présidentielle de manière à ce que le vainqueur puisse être revêtu de la légitimité suffisante pour appliquer sa vision, partant d'une posture de rassemblement et être comptable devant le peuple. Le 18 février 2020, notre Constitution totalisera 14 ans depuis sa promulgation. Cette Constitution a été le fruit d'un consensus laborieusement obtenu après des années de guerre. Elle est le fruit de notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous satisfaire de ce que nous avons pu accomplir grâce à cette Constitution. C'est pourquoi nous veillerons, vous et moi, à ce que personne ne touche à des dispositions intangibles ou verrouillées.
Un extrait du discours de Félix Tshisekedi, qui a par ailleurs mis un accent particulier sur l'insécurité et le rôle de l'armée et a esquissé des pistes anticorruption pour la République démocratique du Congo. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a mis en garde contre des dissensions au sein du ZANU-PF. Je suis conscient que nos détracteurs essaient de diviser le parti en tentant de recruter dans nos rangs, a déclaré M. Mnangagwa lors de la conférence annuelle du parti à Goromandzi. Tout juste élu hier, l'ancien premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune fait déjà face à la contestation. Il a recueilli 58% des voix à la présidentielle. Des milliers de personnes ont manifesté en ce 43e vendredi de mobilisation. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Une marée humaine a envahi le centre d'Alger pour conspuer le nouveau chef de l'État, un ex-fidèle du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Le vote est truqué, vos élections ne nous concernent pas et votre président ne nous gouvernera pas, scandent les manifestants qui défilent en masse dans le cadre de la mobilisation depuis le déclenchement en février du Hirak, un mouvement de contestation populaire inédit. Les manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire « Tebboune, ton mandat est un mandat mort-né » ou encore « Votre président ne me représente pas ». Âgé de 74 ans, Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre puis chef de gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, a été élu dès le premier tour. Le scrutin a été marqué par une abstention record. Moins de 40% des électeurs ont voté.
La France, l'Allemagne et l'Italie ont appelé à l'arrêt des actions militaires en Libye pour empêcher le maréchal Haftar de s'emparer de Tripoli. Emmanuel Macron, Angela Merkel et le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, ont appelé toutes les parties libyennes à s'engager sincèrement en faveur d'une cessation globale et durable des hostilités et à reprendre un processus de négociation crédible mené par les Nations Unies.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'acte d'accusation de Donald Trump a été approuvé par une commission à majorité démocrate du Congrès américain, franchissant une étape décisive avant un vote sur le probable renvoi du président des États-Unis en procès pour destitution. La commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté deux chefs d'inculpation retenus par les démocrates. Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Il revient désormais à la Chambre de voter sur ce texte lors d'une séance plénière mercredi. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Élu massivement sur sa promesse de réaliser le Brexit le 31 janvier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé au rassemblement et Kiabadou nous en dit plus.
J'appelle tout le monde à tourner la page et à commencer à panser les blessures. Après plus de 3 ans de déchirement depuis le référendum de 2016 qui a décidé le Brexit, a déclaré le dirigeant dans une courte allocution devant le 10 Downing Street. Il a tendu la main aux europhiles et à ceux qui n'ont pas voté pour lui, insistant sur sa volonté de se concentrer sur les priorités des gens, comme la santé, la sécurité, l'éducation et les infrastructures. Les conservateurs ont remporté une majorité d'une ampleur inédite depuis Margaret Thatcher en 1987, raflant 365 sièges sur 650 grâce à la prise de circonscriptions ouvrières acquises depuis des décennies aux travaillistes mais favorables au Brexit. Selon Boris Johnson, sa victoire résulte de la décision irréfutable, irréversible et incontestable des Britanniques de tourner la page de l'Union européenne après 47 ans de mariage houleux. Il a été reçu au palais de Buckingham par la reine Elisabeth II, qui l'a chargé officiellement de former un nouveau gouvernement.
Après la conclusion d'un accord avec Pékin, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis renonçaient à imposer dimanche des nouveaux tarifs douaniers sur 160 milliards de dollars de biens chinois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. À présent, la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, le montant des marchés publics attribués aux PME est passé de 15,6% à 46,6% en un an, soit une hausse de 31% en glissement annuel. L'annonce a été faite par le gouvernement ivoirien à l'issue de son dernier conseil des ministres. Nouvel élan de développement au Sénégal, le pays s'est doté d'une centrale flottante génératrice d'énergie à base de GNL, couvrant près d'un sixième de ses besoins. L'ouvrage est un composant du projet d'exploitation pétrolière Grand Tortue Ameim et marque une nouvelle étape dans son plan de développement d'un mix énergétique. Au Congo, le FMI dit avoir reporté au premier trimestre 2020 le versement de 44,7 millions de dollars représentant la deuxième tranche d'un prêt. L'institution demande à Brazzaville de faire plus d'efforts dans la lutte contre la corruption et le règlement de ses dettes. La Banque mondiale a reçu des promesses de renflouement record de 82 milliards de dollars sur les trois prochaines années, dont 53 milliards pour l'Afrique, soit 7 milliards de plus que sur la période 2017-2020. Il s'agit du plus grand renflouement de l'histoire de l'Association internationale du développement, indique le président de la banque, David Malpass.
C'était la Minute Éco présentée par Irénée Herman Ongbo. À présent, l'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors, les supporters de l'Espérance font galérer les autorités qataries au Mondial des clubs.
Oui, 24 heures avant le coup d'envoi du match qui va opposer l'Espérance sportive de Tunis à Al Hilal d'Arabie Saoudite, à Doha au Qatar, les autorités qataries appellent les supporters sang et or à faire preuve de plus de civisme. 20 supporters ont été arrêtés avant d'être relâchés par les autorités locales à l'aéroport international de Doha pour avoir vandalisé l'avion dans la compagnie qatari à bord duquel ils ont voyagé. Doha accueille l'édition 2019 du Mondial des clubs qui se déroule du 11 au 21 décembre avec la participation des meilleurs clubs dans leurs continents respectifs, dont le double champion d'Afrique en titre, l'Espérance sportive de Tunis.
La saison est terminée pour l'Algérien Ishak Belfodil.
Oui, victime d'une rupture au ligament croisé, l'attaquant algérien d'Offenheim s'est fait opérer il y a quelques mois avec succès, mais le joueur ne sera pas prêt à fouler les pelouses de la Bundesliga cette saison. Mon sentiment, c'est que Belfodil ne va plus rejouer cette saison. Il a une blessure au ligament croisé qui prend d'habitude une durée de 9 mois pour s'en remettre, a déclaré son entraîneur Alfred Schröder. Atout offensif numéro 1 de Hoffenheim, Isaac Belfodil n'a disputé que 5 rencontres de Bundesliga cette saison, lui qui a pourtant joué 28 matchs la saison dernière en championnat avec 16 buts inscrits.
3000 agents sont mobilisés pour la sécurité du Classico Barça-Real.
3000 agents de police et de sécurité privée seront mobilisés pour le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid le 18 décembre. L'appel à manifester autour du stade bleu et rouge génère des inquiétudes pour l'organisation de l'un des matchs les plus suivis au monde, déjà reporté en octobre à cause des manifestations séparatistes. Selon le gouvernement régional catalan, la police garantira la tenue du match, l'accès des supporters et la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Les contrôles et les fouilles des supporters seront aussi renforcées et un cordon sera mis en place pour empêcher les manifestants d'atteindre les entrées du Camp Nou.
On termine par du handball avec une finale inattendue, Pays-Bas-Espagne.
Les Pays-Bas et l'Espagne, deux nations en quête de leur premier titre international, s'affronteront dimanche à Kumamoto, au Japon. Les Néerlandaises ont réussi l'exploit d'éliminer les favorites pour l'or, les Russes 33-32 en demi-finale. Ce sera la deuxième finale mondiale des Pays-Bas après celle perdue en 2015 contre la Norvège. Dans la deuxième affiche des demi-finales, les Espagnols ont largement dominé la Norvège 28-22. C'est la première fois depuis l'an 2000 que les Norvégiennes manquent deux fois de suite la finale d'un tournoi majeur.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition maintenant, les dossiers du jour. Au Sénégal, les cas de violence se multiplient. Ces actes sont fréquents à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, où la présence des forces de l'ordre est jugée insuffisante, voire inefficace pour certains habitants. Ces derniers se plaignent de la recrudescence de la violence, selon notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay, qui leur a tendu le micro.
La présence des forces de sécurité n'est plus un gage de sécurité ni un facteur dissuasif. C'est le constat très froid dressé par Ibrahim Silla. Cet habitant de Guédiawaye explique que l'une des causes principales de cette situation est la chute du mythe de l'homme de tenue.
Nous avons constaté que lorsque l'agent en question, que ce soit un agent de la police ou bien de la gendarmerie, se livre à des pratiques qui ne sont pas du tout courtoises, au vu et au su de tout le monde, cet agent-là a tendance à perdre son autorité. Ce qui aura comme conséquence, tout simplement, le fait que des individus mal intentionnés puissent se livrer à des casses, à des actes de violence, sans pour autant avoir peur de l'agent de police. Donc moi, je pense que leur présence n'est plus un gage de sécurité.
Une présence qui est surtout insuffisante aux yeux des habitants de Guédiawaye. Pour Djibril Sarr, la recrudescence de la violence dans cette partie de la banlieue en est la preuve.
Ces temps-ci, on constate de plus en plus des vols à mer à mer. En plein jour, des agressions en plein jour et dans des coins sensibles. Et là-bas, on ne voit pas de policiers ni de gendarmes. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités afin de renforcer les commissariats. Parce que la plupart des forces de l'ordre sont dans la circulation en train de racketter les taximans et autres. Et voilà, ça c'est déplorable. Et la sécurité de tous, pour moi, est primordiale. Donc, à ce niveau, l'État doit prendre ses responsabilités.
Guédiawaye a besoin d'un dispositif sécuritaire global pour faire baisser les cas de violence. C'est la conviction de Momodou Ndiaye Diom qui estime que la sécurité ne doit pas seulement être l'affaire de l'État, car elle doit être inclusive pour plus d'efficacité.
La population a un rôle important à jouer là-dedans. Il faudrait que notamment les lieux où on note beaucoup plus de violence, notamment les stades, notamment les arènes, notamment les manifestations politiques, qu'on puisse sensibiliser davantage la population pour qu'en amont, avant que les gens ne partent dans ces lieux-là où se tiennent ces manifestations-là, qu'ils soient suffisamment outillés pour un peu savoir donc, les conséquences de cette violence-là sur la communauté et sur les auteurs et même pour les victimes. Je pense globalement, il faut un dispositif concerté.
Pour davantage être au chevet des populations, l'État du Sénégal avait pourtant créé en 2013 l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité avec un effectif de 10 000 agents. Une entité qui a très vite montré ses limites dans la banlieue, poussant les autorités à renforcer le recrutement au sein des forces de sécurité régaliennes, ce qui s'est traduit en partie par l'enrôlement de 1330 agents dans la police pour 2019. De même, beaucoup de zones sensibles de la capitale sénégalaise, dont Guédiawaye, ont été dotées de commissariats de police et de brigades de gendarmerie. Mais pour les populations, il reste encore beaucoup à faire. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24. Ici à Washington, l'acte d'accusation de Donald Trump a été approuvé par la commission judiciaire à majorité démocrate du Congrès. C'est une étape décisive avant un vote historique de la Chambre sur la mise en accusation du président des États-Unis. Le point avec Lionel Gaïma.
Deux mois et demi après la révélation de ce que les démocrates appellent le scandale ukrainien, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté à 23 pour et 17 contre deux chefs d'inculpation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Le président de la commission judiciaire, le démocrate Gerald Nadler.
Today is a solemn and sad day.
Aujourd'hui est un jour solennel et triste. Pour la troisième fois en un peu plus d'un siècle et demi, le comité judiciaire de la Chambre a voté des articles de mise en accusation du président pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. La Chambre agira rapidement.
C'était notre son de cloche pour le républicain Doug Collins, numéro 2 de la commission judiciaire, qui a immédiatement publié un communiqué disant, et je cite, cela met en évidence la mesquinerie du retard d'hier soir et la folie des articles de mise en accusation qui ne se portent sur aucun crime et n'établissent aucun cas. S'il est déjà clair que les démocrates ont rompu leur propre promesse de truquer ce résultat, ce qui deviendra plus évident dans les jours et les années à venir, c'est que les démocrates ont gravement abusé de leur pouvoir. Il revient maintenant à la Chambre de voter sur ce texte lors d'une séance plénière attendue mercredi. Compte tenu de la majorité démocrate dans cette enceinte, Donald Trump est quasi assuré d'être mis en accusation. Il devrait toutefois échapper à la destitution, le Sénat, chargé de le juger, étant contrôlé par les républicains. D'ailleurs, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, l'a affirmé hier soir sur Fox News, il n'y a aucune chance que le président soit destitué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa et l'Africa Sport s'affronteront demain au stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion de la 11e journée du championnat national de football. Même si les derbies à SEC Africa ont perdu de leur saveur, ce choc suscite cette année un engouement des supporters des deux équipes qui se défient sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce regain d'engouement autour de ce derby? Yacouba Ouedraogo a joint Soalio Diomandé, directeur de publication d'Abidjan Sport.
Ces deux équipes aujourd'hui qui sont à la recherche de la marque. La SEC aujourd'hui veut gagner ce match-là par le premier. Donc pour la SEC, il y a une place des leaders en jeu. Pour l'Africa Sport, c'est de se rapprocher d'une place qualificative pour une coupe africaine.
Ce derby à SEC Africa était pratiquement au point mort ces dernières années. Qu'est-ce qui a suscité ce regain d'engouement autour de ce choc entre ces deux clubs?
Sur les réseaux sociaux, il y a de nouveaux groupes de supporters des deux équipes. Côté ASEC, c'est ASEC Mosa Nouvelle Génération. Et côté Africa Sport, c'est Africa Sport Nouvelle Génération. J'en ai pas sur Facebook qu'ils animent. Et puis, cette année, il y a eu une nouvelle page qu'on appelle le Mur Jaune. C'est encore des jeunes supporters de l'ASEC. Et puis, curieusement, ces deux groupes-là ont créé le buzz sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui ont donné un élan nouveau à ce derby-là. Et aujourd'hui, tout le monde attend ce match. Même des professionnels ivoiriens qui jouent en Europe, qui jouent en Arabie Saoudite, ont acheté des tickets à des supporters de leur club d'origine. Et la presse aussi s'est saisie de l'appel. La RTI a même fait une émission spéciale à ce midi.
À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas ou n'étaient pas assez développés. Mais ce derby mobilisait. Pourquoi les Ivoiriens s'intéressent moins à ce choc à SEC Africa de nos jours?
Ah, mais parce qu'il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de talent. Il y a 20 ans de cela, le derby à SEC Africa qui avait attiré du monde au Stade Houphouët-Boigny, c'était un derby où il y avait côté à SEC des garçons comme Kolo Touré, Sokora Didier, Paki Kone, Sezeto et autres. Côté Africa Sport, il y avait Fadel Keïta, Kamara Ibrahim qui est actuellement l'actuel entraîneur de la sélection de Côte d'Ivoire, Jean-Jacques, Kone Ibrahim et autres. Le Stade Houphouët-Boigny avait fait le plein, les 45 000 spectateurs. Mais après la crise qu'on a connue en 2002, je pense que ça jouait un peu. Il y avait plus de talent, donc les Ivoiriens n'étaient plus intéressés par ce derby qui se jouait même pas devant 2000, 3000 spectateurs.
Le constat, il est le même hein, pratiquement dans tous les championnats de l'Afrique subsaharienne surtout. Les derbys locaux intéressent moins par rapport à des matchs qui se jouent à des milliers de kilomètres comme Real Barça. Pourquoi les fans du foot africain ne s'intéressent plus à leur propre championnat.
C'est simple, hein? Il n'y a plus de talent. J'ai pris l'année 1999, mais à cette époque-là déjà, il y avait des chaînes cryptées, il y avait des derbies en Europe, mais ça n'empêchait pas les gens d'aller au stade. Quand les équipes nationales jouent, les stades sont pleins. Donc c'est pour vous dire que ce sont les talents qui attirent le public. Donc, moi je pense que c'est la responsabilité des présidents du club. Il faut qu'ils bâtissent des très bonnes équipes avec des très bons joueurs pour attirer les spectateurs au stade.
Vous parlez de talent, on voit pourtant des Africains qui brillent dans les championnats occidentaux. Il y a des talents africains.
Aujourd'hui, les clubs africains ont du mal à conserver ces jeunes-là parce que les salaires, souvent même, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime. Tout ça, c'est des sources de démotivation. Donc, aujourd'hui, tous ces jeunes-là veulent aller en Europe.
Là où il y a de l'engouement autour des derbys locaux, c'est en Afrique du Nord. Comment est-ce que cette partie du continent réussit à conserver ces joueurs alors qu'ailleurs, on n'y arrive pas?
Ils ont des gros moyens. Quand vous prenez le budget d'une équipe comme le Zamalek ou Al Ahly ou Pyramide FC, ça n'a vraiment rien à voir avec le budget de l'Africa Sport ou le budget de Oréa de Conakry ou le budget du Canon de Yaoundé. Je me souviens très bien d'une équipe comme le Pyramide FC d'Égypte où le président, qui est un milliardaire saoudien, qui arrive, qui débourse près d'un million de dollars dans le recrutement. Ce n'est pas la même planète par rapport aux équipes de l'Afrique subsaharienne qui n'ont pas de moyens. Les stades sont vides, il n'y a pas de sponsors. C'est vraiment dommage.
Soalio Diomandé est directeur de publication d'Abidjan Sport. La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Célestin Mandoué est en tournée française pour présenter son nouveau projet Au nom de l'art, un lieu de résidence en construction à N'Djamena où des sculpteurs pourront apprendre à chanter et des chanteurs à sculpter. Il espère décloisonner l'art afin que la jeunesse puisse s'exprimer et donner un nouveau souffle au quotidien, parfois difficile sur ce continent. Et Kabadou l'a rencontré à Paris.
Mandoué célèbre ses 20 ans de carrière avec un nouvel album intitulé « Au nom de l'art ». Un opus de 14 titres écrits et réalisés entre le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et l'Italie avec la participation d'artistes burkinabés, togolais, camerounais et tchadiens. Au nom de l'art, c'est aussi un projet de résidence artistique.
Le projet Au nom de l'art, c'est d'abord une résidence artistique entre sculpture et musique que j'ai le plaisir de partager avec Kisiriki, qui est un sculpteur burkinabé. Donc le but, c'est de réunir les enfants pendant 2-3 mois. Ils vont sculpter en chantant, chanter en sculptant. Et à la fin, ça sera une exposition, ça sera aussi un concert de rendu. Mais c'est aussi le titre de mon prochain album que j'ai réalisé entre le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire et l'Italie. Et c'est derrière tout ça se cachent aussi des concerts, une série de concerts qui va se faire aussi à partir de N'Djamena. Donc l'idée, c'est carrément même de... Il y a une fondation aussi au nom de l'art qui va être lancée, plus un projet de centre de création. On a déjà le terrain, donc après les concerts, tout ce qu'on va récolter, ça va nous permettre aussi d'asseoir un centre de... Pas de formation, parce que le terme ne me plaît pas, mais de création. De ramener les jeunes à être là, s'approprier la terre et puis en faire un monde plus beau que ce que nous on les a laissé. Et bien, un monde plus beau que celui que nous on les a donné. Voilà.
L'artiste burkinabé tchadien prend toujours le temps d'aller à la rencontre de son public.
Bah, le concert était bien. C'était bien parce que c'est un petit challenge que j'ai voulu faire. Tenir 1h30 sur scène, juste voix et guitare, et avoir un public réceptif, franchement, c'est un régal. Ouais. C'est même un moment de partage, c'est de ramener les jeunes à l'essentiel. Ceux qui aspirent à faire de l'art comme carrière, c'est... Et puis maintenant, développer aussi les thèmes autour de ça, s'approprier leur vie, s'approprier la terre, et puis en faire de ce qu'eux, ils ont envie de faire, mais d'une manière positive. Donc, c'est pas vraiment de l'humanitaire en tant que tel. Derrière ça, il y a de la création, il y a un album, donc on est vraiment dans le projet purement artistique. Maintenant, après, si ça peut faire du bien à côté au niveau de la formation, c'est tant mieux, quoi. Voilà.
À terme, Au nom de l'art deviendra également une fondation à laquelle chacun pourra apporter sa contribution pour aider les jeunes à s'épanouir à travers l'art. C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Cheikh Thierrot et Rob McLean. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bon week-end à toutes et à tous. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Et tout de suite,